Bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture consacrée aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, nous partons à la découverte de L'Homme sans contact, du nom du dernier essai écrit par Marc Duguin avec le journaliste d'investigation Christophe Labbé, un binôme d'auteurs connu pour avoir en 2016 écrit L'Homme nu, la dictature invisible du numérique, un petit livre dense et technocritique qui a été un grand succès en librairie. Que s'est-il passé dans ces 6 ans entre ces deux livres? Comment la crise sanitaire et les multiples confinements ont-ils accéléré la numérisation de notre société et amplifié le pouvoir des GAFAM sur nos vies? Les prophéties énoncées par l'Homme nu sont-elles advenues? Comment trouver sa place entre les réseaux sociaux qui polarisent, le développement d'une intelligence artificielle et un risque, selon l'auteur, de sombrer dans un totalitarisme numérique? Enfin, quelle lueur d'espoir nourrir aujourd'hui pour ne pas réduire l'humanité à cet homme sans contact qui a perdu tout pouvoir de décision et son libre arbitre? Voici les enjeux de la discussion du soir. Marc Duguin, bonsoir et bienvenue dans Le Meilleur des Mondes.
Bonsoir.
Vous signez cet essai avec Christophe Labbé qui vient tout juste d'être publié aux éditions de l'Observatoire. Mais beaucoup de nos auditeurs, auditrices vous connaissent aussi comme romancier ou encore réalisateur. Une carrière d'écrivain entamée avec succès après une activité d'entrepreneur dans le secteur de l'aérien. Comme quoi on peut passer des lignes aériennes aux mots suspendus tout en maintenant les envolées. Merci d'être avec nous. Au programme également, les nouvelles du Meilleur des Mondes et la chronique de Juliette Deveau qui s'intéressera à Elon Musk, non pas pour nous parler des méandres de Twitter, mais d'une autre de ces entreprises, Neuralink, qui développe les implants neuronaux. Gardons le contact. Sur les ondes, comme sur l'application Radio France, où vous êtes de plus en plus nombreux à nous podcaster, Le Meilleur des Mondes, c'est parti.
Nous allons fermer durant 3 semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées.
Vous avouerai-je que je n'y habituerai sans doute pas. Parler devant un amphithéâtre vide. Pour parler, il faut l'autre.
On va plus voir la maîtresse et on va faire les devoirs par message.
Il est incontestable que cette période a été extrêmement propice pour faire la promotion des technologies du numérique et du besoin de transformation numérique.
Transparence est une start-up du numérique, une sorte d'agence matrimoniale. Elle va se servir des données recueillies sur Internet.
La supériorité de la machine sur l'homme.
Vous y croyez?
Non, pas tellement.
À la base, l'enjeu militairement, c'était d'être capable de pouvoir piloter des drones par la pensée.
De plus en plus, on l'enlève de la boucle. La machine tourne d'elle-même sans que l'humain puisse tirer la sonnette d'alarme.
Touch, sweet touch.
France Culture.
You've given me too much to feel.
Le Meilleur des Mondes.
Sweet touch. You've almost convinced me I'm real.
François Saltiel.
I need something more. I need something more.
Alors Marc Duguin, L'Homme nu, je le disais, publié en 2016, a permis d'éveiller notre esprit critique sur les dangers du numérique. En 2019, vous avez signé chez Gallimard un roman d'anticipation, Transparence, où il est notamment question de transhumanisme. On aura l'occasion d'y revenir. Et vous revenez, vous, donc maintenant, en 2022, avec cet essai critique, cette suite sans doute de L'Homme nu. Quel en a été le déclencheur de cette écriture?
Alors, le déclencheur de ce livre, ça a été la crise sanitaire. Parce que, bon, effectivement, on avait écrit ce livre il y a quelques années. Et puis quand la crise sanitaire est arrivée, on a eu écho de ce mot de Schmitt qui dirigeait Google à l'époque, ouais, en disant voilà une divine opportunité. Donc on s'est dit il y a toujours, c'est vrai que dans les moments tragiques de l'humanité, il y a toujours des gens qui voient une opportunité magnifique, et ça a été le cas parce que en même temps, il faut bien reconnaître que ça a aidé à passer la crise. Sinon, si on n'avait pas eu le numérique, je pense qu'on aurait vécu une récession terrifiante. Et en même temps, du coup, cette industrie qui s'était déjà installée, le grand démarrage, je dirais, du filet numérique, c'est le terrorisme. C'est-à-dire qu'avec le terrorisme, on a créé un système de surveillance absolument sans précédent. Et la deuxième impulsion, ça c'est vraiment la question de la sécurité, c'est-à-dire comment on échange la sécurité, de la liberté contre de la sécurité.
Très présent puis, justement dans le menu, hein, dans le premier ouvrage, la question effectivement du terrorisme qui amène une société de la surveillance contre de la liberté, contre la promesse de liberté en tout cas.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait c'est cet échange tout simple qu'on a fait en ayant conscience, sans en avoir tout à fait conscience, qui est de dire on va vous amener à un niveau de sécurité exceptionnel, mais malheureusement, en contrepartie, votre liberté sera celle de quelqu'un qui est sous surveillance. C'est-à-dire que tant que vous ne commettez rien de délictuel ou de, mais on a possibilité de tout savoir sur vous, vos déplacements, vos préférences. On peut vous écouter aussi, puisque maintenant on reconnaît qu'avec avec un smartphone, on peut vous écouter. Et donc c'est toute cette société qui était déjà là. Et le Covid a été un accélérateur phénoménal parce que évidemment il y a eu toute la question à la fois de la mobilité qui s'est arrêtée, qui est un des fondements de notre société, la mobilité. Et donc on a complètement perdu cette mobilité. Et par ailleurs, on ne pouvait plus avoir de contact entre nous puisque le contact était mortel, en tout cas considéré comme tel. Il l'a été malheureusement dans bien des cas. Et donc s'est installée cette société du télétravail, de l'enseignement à distance. Et là, on a pris goût à quelque chose de nouveau. Et je dirais que si ajoute la crise climatique, c'est-à-dire ce que dit le numérique, ce que dit l'industrie numérique, c'est que ce qui est formidable, c'est qu'avec le numérique, justement, on va limiter les déplacements, donc on va beaucoup moins polluer. Or, malheureusement, on sait que c'est faux, puisque le numérique, dès le moment où vous consultez quelque chose sur votre téléphone, ça fait travailler des ordinateurs extrêmement puissants qu'il faut refroidir et qui demandent une énergie considérable pour être refroidis.
Oui, ça peut être une industrie virtuelle, évidemment, la pollution qui lui incombe n'est pas du tout virtuelle, elle est bel et bien réelle, cette pollution numérique. Puis je renvoie aussi aux travaux de Guillaume Pitron, qui en a beaucoup parlé de cette pollution numérique, on a eu l'accusant de le recevoir ici dans cette émission. Mais on comprend bien, effectivement, que sur le menu, c'était le terrorisme qui a été l'occasion d'une accélération, finalement, de cette surveillance qui existait déjà précédemment. On se rappelle aussi des révélations d'Edward Snowden dès 2013. Et ensuite, la crise sanitaire, selon vous, qui a été donc une accélération de cette distanciation, de cette vie numérique où les échanges, les relations humaines se font à distance, une opportunité économique, puisque effectivement, vous citiez Eric Schmidt de Google, et on a vu que Netflix, que Twitter, que beaucoup d'entreprises et Amazon ont gagné de nombreuses parts de marché. Mais pour revenir sur votre intérêt sur le numérique, entre l'homme nu et l'homme sans contact, qu'est-ce qui fait qu'un romancier comme vous s'intéresse de si près à cette question-là, puisque vous l'avez traité aussi dans des romans d'anticipation? En quoi, selon vous, c'est aujourd'hui nécessaire de traiter du numérique, d'ailleurs par le prisme du roman comme par celui de l'essai?
Alors, il y a deux motivations. Il y a une motivation, quand vous êtes romancier, il y a deux solutions. Soit vous décrivez la société telle qu'elle est, soit vous essayez de la penser. Moi, j'ai pris un peu le parti d'essayer de la penser. Bon, je ne suis pas non plus Je ne me considère pas comme un immense penseur, mais j'ai essayé parce que ça m'intéresse beaucoup. Très souvent, les écrivains s'intéressent au passé. C'est-à-dire qu'on écrit des livres, j'ai commencé comme ça.
Les gueules cassées.
La gueule cassée de la guerre de 14. J'ai fait beaucoup de romans, j'en ai fait un sur Edgar Hoover, c'est du passé, sur Robert Kennedy, c'est du passé. Mais je trouve que rien n'est plus intéressant que l'avenir, c'est-à-dire de savoir où est-ce qu'on va et surtout de voir comment la société s'y prépare ou ne s'y prépare pas. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui, moi, m'a, je dirais, profondément choqué dans le numérique, c'est l'émergence de cette technologie absolument incroyable, avec plein d'avantages, parce que
Vous n'êtes pas un technophobe.
Non, ouais. Je suis pas un technophobe. Je pense que ça n'a pas de sens d'être technophobe. Mais c'est un petit peu, si je peux me permettre, c'est un peu la même problématique que le pétrole. Souvenez-vous, le pétrole, ce que ça nous a amené. C'est extraordinaire. On s'est chauffé au pétrole, on s'est éclairé au pétrole, on a eu des centrales, on a fait tourner des voitures, c'est génial. Et puis là, on est en train de se rendre compte que le pétrole est en train de nous tuer. Que notre espèce est pas encore en voie de disparition, mais pourrait le devenir parce que les conséquences climatiques de cette matière première et de son utilisation font que on est menacé. Et je pense que pour le numérique, ce qui en fait me concerne profondément, c'est que je n'ai pas le sentiment que on aille dans cette société de façon volontaire. C'est-à-dire qu'une fois encore, c'est le marché qui décide, c'est-à-dire c'est une industrie qui se développe. Et finalement, quand on parle avec les politiques, qui généralement ont comme terme celui de leur mandat, ben on se rend compte qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe et de la façon dont... Donc ils subissent et en même temps, ils accompagnent, parce que ils ont accompagné pendant la crise sanitaire.
Oui.
Ils ont eu raison.
Et puis quand vous parlez de personnages politiques, et justement, ils accompagnent, voire même une promotion, vous évoquez d'ailleurs dans votre ouvrage, vous revenez sur les propos d'Emmanuel Macron concernant la 5G, lorsqu'il fait référence justement au siècle des Lumières, en disant qu'il faut accompagner justement ce progrès. C'est ce que vous évoquez là, c'est-à-dire qu'on nous... C'est comme si ce progrès était un peu une marche forcée, c'est comme s'il y avait un manque de consultation aussi des citoyens. C'est cette pensée technosolutionniste. C'est-à-dire le progrès, c'est la technologie, il faut partir vers l'avant sans forcément réfléchir.
Oui, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on a l'impression que les politiques sont uniquement là pour accompagner le développement de sociétés technologiques dans un cadre capitaliste, sans en mesurer tous les enjeux. Et moi, j'ai été, vous avez raison d'en parler, parce que s'il y a bien quelque chose qui m'a choqué, c'est que, un, je ne suis pas un Amish, et je suis loin de l'être, parce que vous l'avez dit, j'ai dirigé des compagnies aériennes, j'ai été dans ce milieu, je dirais, de l'industrie, donc je suis pas du tout... Et en même temps, je trouve ça extrêmement humiliant pour nous, électeurs, qu'on nous dise, voilà, c'est une technologie, alors soit vous l'acceptez, vous êtes intelligent, soit vous êtes des retardés, vous êtes des attardés. Et ça, ça n'est pas acceptable, parce que avec la 5G, il y a des enjeux qui sont des enjeux sanitaires aussi, des enjeux d'accélération. Et moi, ce que je vois, je vais vous donner un exemple qui est, je dirais, le deuxième fondement de la motivation dont vous me parliez tout à l'heure. J'étais la semaine dernière à un dîner où on était plusieurs familles. Et donc, les enfants étaient tous là. Et les enfants de... J'ai un dernier enfant qui a 10 ans. Et ils étaient 6. Donc, enfin, 6 ou 7, je me souviens plus. Et donc, la soirée se passe. Et le lendemain, je dis à mon fils, alors c'était comment? Ben, il me dit, je dis, c'était comment avec tes copains et tout ça? Il me dit, c'était nul, on s'est pas parlé. Tout le monde était sur son téléphone. C'est-à-dire qu'ils ont passé une soirée de 19h à 23h, chacun sur leur téléphone, sans communiquer.
Oui, mais Marc Dugain, si tu peux me permettre, sans communiquer entre eux, les uns à côté des autres, mais sur leur téléphone, ils communiquaient avec d'autres personnes.
Enfin, ils communiquaient ailleurs. Ils étaient sur TikTok, ils étaient sur des jeux, ils étaient sur...
Mais peut-être qu'ils interagissaient. Si je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas un préjugé parfois de penser qu'être sur l'écran, c'est être coupé du monde. Or, on peut être aussi sur l'écran et être dans la communication,
oui,
et être dans la relation.
Bien sûr. Non, mais ça, je ne le nie pas. C'est-à-dire que... Et j'en fais partie. Mais c'est vrai que d'ailleurs, ce qu'a créé le téléphone, c'est le smartphone. C'est quand vous êtes avec quelqu'un, vous discutez, d'un seul coup, il y a un message. C'est le message qui prend le pas sur tout le reste.
Parce que c'est le sentiment d'urgence.
C'est le sentiment d'urgence. Bon, ça, c'est une chose. Mais avec les enfants, moi, ce qui m'inquiète énormément, ce que je pense fondamentalement, c'est que cette technologie est une technologie qui se développe essentiellement pour vendre. C'est-à-dire qu'on est là pour faire de la publicité, pour vendre de plus en plus. Et je pense que d'ailleurs, il y a un moment, il va falloir qu'on arrête de vendre et de créer constamment des nouveaux objets, parce que justement, c'est comme ça qu'on va aggraver la crise climatique. Et donc, il n'y a pas de sous-jacent qui soit plus fort dans cette technologie que de vendre et vendre toujours plus. Et je pense que ce qui est grave, c'est que ça fait de nous des consommateurs, de plus en plus des consommateurs, et de moins en moins des citoyens. Même si on va dire, oui, il y a eu le printemps arabe grâce à Facebook.
Et Twitter à l'époque, en 2011, effectivement.
Sauf que maintenant, on voit le résultat. Les printemps arabes, on est vraiment passé à l'hiver. Donc,
Oui, mais les outils ont quand même permis à un instant T de permettre quand même là à une jeunesse de pouvoir se regrouper, se fédérer dans l'angle mort d'un, de médias justement qui exerçaient une censure étatique. Et on a vu quand même le rôle de ces réseaux sociaux de pouvoir faire en sorte d'échapper à des médias de contrôle. Même si effectivement le mouvement derrière, mais quelque part la Révolution française, ça n'a duré qu'un temps aussi, mais il a quand même existé ce moment-là. Et il a existé grâce avec les réseaux sociaux l'espace d'un moment.
Il a existé l'espace d'un moment. Moi, ce que je regrette, c'est que ce moment n'ait pas duré. Parce que finalement, c'est toujours ça un petit peu les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a une effervescence. Comme vous le dites, c'est une façon de communiquer qui est très moderne et qui est donc très fluide. Mais derrière, pour quel résultat ? Les gilets jaunes, c'est les réseaux sociaux aussi au départ. C'est un regroupement de personnes en colère. Quel résultat ? Est-ce qu'on est arrivé à fédérer des idées ? Est-ce qu'on est arrivé à dégager une pensée ? Est-ce qu'on est arrivé à dégager une proposition d'un autre modèle ?
Mais est-ce qu'on peut attendre du numérique justement qu'elle mette en place l'architecture d'une gouvernance ou d'un modèle ou... Parce que je comprends, mais le numérique ne peut pas tout accompagner. Sur la question des gilets jaunes, ils ont peut-être permis à des gens qui se sentaient non représentés, en tout cas dans l'espace public traditionnel ou médiatique, d'arriver justement par des groupes Facebook, par des moments de rencontre, à échanger, à se fédérer et à passer aussi d'un espace virtuel à un espace physique, c'est-à-dire d'un groupe Facebook à un rond-point.
C'est vrai, mais ça, ça je trouve très intéressant, et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, à propos du printemps arabe, je trouve ça très intéressant si on va encore plus loin. C'est-à-dire que si à partir de cette chose numérique, on va vers une chose physique, qui est le regroupement physique de personnes autour de ronds-points, mais ensuite, on arrive à fédérer une pensée. Et une alternative. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'alternative. Il y a eu des augmentations de salaires, enfin des choses, des cadeaux, je dirais, faits par le gouvernement pour calmer tout ça. Mais ce qui est dommage, pour moi, c'est que de ce type de mouvement, on ne voit pas émerger une alternative à un système qui se cause. Et je pense que une des raisons aussi pour lesquelles les jeunes votent de moins en moins, c'est qu'en fait, ils comprennent pas l'idée de se déplacer, par exemple.
Oui, ils se disent qu'on se déplace pour rien. Juste, je vous lis sur les réseaux sociaux, lorsque vous dites qu'ils permettent de contester mais pas d'agir, vous dites « Le totalitarisme et de l'ultralibéralisme digital conduit à ce que rien ne puisse menacer les intérêts fondamentaux des acteurs du système tout en donnant en permanence le sentiment de le faire. » Cette idée que sur les réseaux sociaux, on a l'impression d'être acteur, d'être actif, de cliquer, de manifester, de contester, et c'est ce que vous dites là, finalement, mais que derrière, il ne permet pas de transformer cette contestation en action.
Oui, pour la simple raison que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on reste, essentiellement des consommateurs, parce que tout le système est fait pour nous faire consommer. Mais il n'est pas fait pour faire de nous des citoyens qui décident et qui ont vraiment un poids. Et c'est ça que je trouve assez angoissant, probablement parce que moi je suis de la génération, perdue, celle qui a un peu tout raté, il faut bien le dire, mais ma génération, moi je me vieillis un peu parce que j'étais quand même un peu jeune pour faire, j'avais 11 ans, mes 68.
Pour me faire mes 68, ouais. Mais vous êtes un héritier, un enfant.
Mais je suis un héritier parce que mes parents ont fait mes 68, mon frère aîné a fait 68, donc j'étais dedans. Et c'est vrai qu'il y a eu le mouvement de la contre-culture, il y a eu le mouvement hippie. Donc il y a eu un moment où on s'est rendu compte que toutes ces valeurs marchandes qui étaient en train d'envahir la société étaient de fausses valeurs. Et le problème, c'est que notre génération, à partir des années 80, a repris assez facilement le goût de l'argent. Et ensuite, avec le numérique, eh bien, on est aujourd'hui dans une société essentiellement marchande. Et quand je vous parlais des jeunes qui ne vont pas voter, parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, moi, j'ai le sentiment que le vote tel qu'il fonctionne aujourd'hui, par exemple, ils ne le comprennent plus, en fait. Pour eux, l'élection, c'est un truc de vieux. C'est-à-dire que, déjà, prendre sa voiture pour aller à un bureau de vote...
Déjà, prendre sa voiture, c'est déjà un truc de vieux.
Déjà, c'est un truc de vieux. Prendre sa voiture pour aller voter à un kilomètre pour quelqu'un vous savez pas trop qui, que vous, de toute façon, vous, après, vous ne pourrez pas remplacer vous-même. Quand Amazon vous livre, d'abord, vous restez chez vous, Amazon vous livre, vous aimez le produit, vous l'aimez pas, vous le renvoyez. Donc, il y a quelque chose qui se crée là dans l'esprit des jeunes, qui est de dire, mais moi, si je suis pas content, je veux pouvoir, et là, j'en prends pour 5 ans. Donc il y a quelque chose de et je trouve que c'est ça qui crée tout cet ensemble. Moi j'étais étonné parce que j'ai vu pas mal d'enquêtes sur les jeunes qui n'ont pas voté aux législatives et à la présidentielle et c'est pas du tout des jeunes qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas voilà sur le pas mais du tout, c'est des jeunes qui sont très actuels, très modernes et qui disent Finalement, ce système-là ne correspond à rien pour nous.
Voilà. Mais pour revenir justement sur l'homme sans contact et essayer de comprendre les interactions, pour vous, justement, cette désaffection, ce désenchantement, cette grande abstention, on va dire, par rapport à la chose politique, elle est due en partie par ces réseaux sociaux, par cette société numérique qui nous fait davantage passer comme étant un consommateur et plus un électeur, plus un citoyen. Pour vous, c'est ce qui dégrade en fait la démocratie. Pour vous, c'est une menace pour la démocratie.
Moi, je pense qu'il y a il y a un exemple quand même qui est assez fort, c'est le Brexit. Au moment du Brexit, Cambridge Analytica, j'ai toujours du mal à le prononcer, a eu un accord avec Facebook qui lui a permis d'avoir accès à des données et puis de faire passer des messages. Et on s'est rendu compte quand même que cette élection a été énormément faussée et manipulée par les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est quand même très... Je tiens d'un Anglais qui est dans la sphère politique anglaise et qui m'a dit aujourd'hui, on revoterait, on serait à 60% en faveur de l'Europe. Donc, c'est des conséquences qui sont pas minces, parce que les Anglais sont sortis de l'Europe, qui était quand même qui reste pour moi un grand projet, même si c'est pas facile. Ils sont sortis sur finalement les conséquences de la société du numérique, c'est-à-dire que le débat, à partir du moment où ils ont balancé cette idée que l'Europe c'était l'équivalent de tant d'hôpitaux qui n'étaient pas construits, l'argent que donnait l'Angleterre à l'Europe, c'était l'équivalent en hôpitaux qui n'étaient pas construits. Donc voilà, on a simplifié le débat, on l'a même totalement caricaturé, de telle façon que les gens, au bout d'un moment, ont dit bon bah puis finalement, puis il y avait une sorte de un peu d'enthousiasme à la nouveauté. On se dit, finalement, allez, si on sortait de l'Europe. Et puis là, maintenant, allez à Londres et vous allez voir dans quel état ils sont. Donc tout ça,
c'est quand même donner peut-être beaucoup d'importance, justement. On rappelle juste Cambridge Analytica, pour ceux qui ne sont pas au fait de toute cette actualité-là, c'était donc une entreprise de manipulation, en fait, de l'opinion, par une agence qui a utilisé des comptes, qui a utilisé des profils et qui a fait, finalement, ce qu'une propagande médiatique pouvait exister dans des médias traditionnels. À l'époque, sur les réseaux sociaux, donc c'est beaucoup plus puissant puisque c'est forcément un message qui est ciblé, qui a divisé pour le compte, donc soit d'un candidat avec Donald Trump, soit d'une cause, à savoir le Brexit. Mais je vais prendre un contre-exemple. Lorsqu'on a vu justement dans les dernières présidentielles la campagne d'Éric Zemmour, qui a été très présent sur les réseaux sociaux, qui a vraiment utilisé les réseaux sociaux, on a même parlé de guérilla numérique. C'est-à-dire quand on le voyait, quand on suivait les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il n'y avait que lui, qu'il était très présent, qu'il était très puissant. On s'y est beaucoup inquiété. Il y a eu d'ailleurs un phénomène médiatique qui a repris l'ampleur des réseaux sociaux. Vous connaissez système.
Je me souviens très bien.
Et pour autant, résultat, 7%. C'est-à-dire que là, on a quand même peut-être l'exemple d'une tentative de manipulation de l'opinion par les réseaux sociaux, ou du moins d'une entreprise très forte de propagande par les réseaux sociaux qui ne s'est pas finalement concrétisée dans les urnes. Ce qui veut dire que peut-être que quand il y a un Brexit, il y a aussi d'autres facteurs.
Oui, il y a d'autres facteurs. Je ne dis pas que c'est le facteur, le seul facteur. Là, il se trouve que pour le Brexit, ça a été un facteur aujourd'hui, tous les spécialistes politiques de l'Angleterre reconnaissent que ça a été un facteur déterminant. Bon, pour Zemmour, je dirais par chance, ça n'a pas été le cas. Mais de toute façon, il y a aussi, si vous voulez, un décalage. Si vous prenez aujourd'hui l'écologie, 65% des Français se disent très favorables, prêts à bouger. Traduction politique présidentielle, c'était quoi, moins de 3% pour le parti écologiste. Donc il y a ça aussi qui entre en compte. Je pense que c'est pas uniquement le facteur réseaux sociaux.
Réseaux sociaux d'ailleurs, sur lesquels vous n'êtes pas, Marc Duguin.
Non. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que il y a quelqu'un qui a pris mon nom sur Twitter.
Usurpation d'identité.
Usurpation d'identité depuis très longtemps.
Mais il le fait avec bienveillance, hein, puisqu'il relaie finalement vos activités.
Il le fait avec bienveillance, et donc, comme moi, je suis pas quelqu'un de genre à faire des procès à tout le monde et à. Et comme de toute façon, ça ne m'intéresse pas, les réseaux sociaux, je le laisse faire sa vie et la mienne sur les réseaux sociaux tant que, voilà, tant qu'il ne dit pas d'énormité, mais je ne suis pas non plus, donc je ne sais pas ce qu'il dit, mais je pense qu'il y a un moment, il faudra quand même que ça s'arrête. Mais ce n'est pas pour autant que j'irai moi-même sur Twitter.
Que ce n'est pas justement, vous qui êtes un homme aussi d'enquête dans vos romans, puisque vos romans sont toujours nourris justement de faits, est-ce qu'il n'y a pas une limite là, à la critique de ne pas avoir enquêté quelque part sur les réseaux sociaux en y étant ? C'est-à-dire que là, vous les jugez de l'extérieur, et ce que vous dites est juste à bien des égards, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas sur le terrain des réseaux. Parfois, quand on est sur le terrain des réseaux, on y voit aussi quelques nuances dans l'usage.
Oui, mais je suis tellement entouré de gens qui y sont, qui m'en parlent en permanence, et de ce point de vue-là, c'est surtout, là, sur cet aspect-là, c'est surtout Christophe Labbé qui est vraiment c'est vrai que j'ai un peu de mal, donc c'est vrai que de ce point de vue-là vous avez raison. Moi je reconnais que je suis pas du tout imprégné, que certainement ça serait peut-être plus pertinent de, mais j'ai du mal moi à passer des journées sur ce genre de vecteur.
Non, si je vous dis ça, c'est parce que c'est pour justement amener un petit peu de nuance par rapport à la description de l'homme sans contact, qui est un portrait quand même assez critique sur nos cités numériques. C'est qu'il y a à la fois des dispositifs et puis après il y a les consommateurs, mais surtout les usagers qui peuvent aussi, comme dirait Alain Damasio, braconner et en fait détourner en fait l'usage, voire même le réinventer. Et la question de l'usage, elle est assez intéressante, notamment sur les jeux vidéo. Vous y êtes d'ailleurs assez critique dans l'ouvrage. Je vous propose d'écouter la sociologue Anne Cordier qui nous explique toutes les diversités de l'usage qu'on peut
oui,
en
c'est
faire.
Vrai.
En réalité, à l'intérieur des usages, il y a plein de pratiques qui se mettent en œuvre. Et c'est en fait les pratiques, les routines, les choses du quotidien qui vont être en fait intéressantes. C'est-à-dire que mon adolescent, là, quand il parle d'un usage vidéoludique, en réalité, je me rends compte très vite qu'il a des pratiques d'information parce qu'il va utiliser, par exemple, sur le forum à côté du jeu vidéo, il va utiliser cet espace-là pour pouvoir dialoguer avec d'autres joueurs, pas forcément sur le jeu d'ailleurs, mais parfois il va parler de sa vie au collège en même temps qu'il est en train de jouer. Il va parfois aussi visionner une vidéo humoristique et puis il va se dire, tiens, là, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, de cet usage de visionnage qu'on va souvent considérer d'ailleurs comme passif, alors qu'il ne l'est pas du coup, il va en fait faire une pratique informationnelle parce qu'il va aller chercher de l'information sur le sujet de cette vidéo pour aller plus loin. Donc, vous voyez, c'est ça le problème de ce terme usage, c'est qu'on en fait un espèce de gloubi-boulga. Et encore une fois, pour re-hiérarchiser finalement les choses.
Voilà, c'était juste une manière pour nuancer aussi des choses, pour dire qu'on peut être effectivement... j'attends votre réaction, Marc Duguin, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, mais être effectivement derrière un écran, et je reprenais aussi la scène familiale que vous évoquiez tout à l'heure en disant que les cinq ados étaient les uns à côté des autres sans se parler, c'est qu'on peut être sur un écran et y faire mille choses, et rêver, et échanger, et avoir de l'émotion.
Oui, mais ça veut dire aussi qu'on est quand même d'une certaine façon plus seul. Parce que le contact, c'est quand même tout l'objet de notre livre. Le contact, c'est magnifique. Et moi, je suis un grand partisan de l'altérité. C'est-à-dire que l'altérité est vraie. D'ailleurs, je suis pas le premier à le dire, mais tous les gens qui insultent sur les réseaux sociaux, ces gens-là, s'ils sont en face de vous, ils oseront pas.
Bien sûr.
Donc en fait, je trouve que les réseaux sociaux, de ce point de vue-là, après on pourra reparler des jeux vidéo si vous voulez, mais les réseaux sociaux de ce point de vue-là ont été maléfiques parce qu'ils ont donné le sentiment d'une société très agressive, très dans le. Et alors que dans la réalité, à partir du moment où on est les uns en face des autres. Il y a un dialogue qui finit par s'installer, on arrive à discuter, on arrive à transiger, on arrive. C'est ça que je crains, moi. C'est cette, sachant que on en parle dans le livre, et moi j'en ai parlé pas mal avec des psychiatres là. La question de l'altérité, elle est centrale pour l'être humain. On n'est que que par la réflexion, évidemment, qu'on a sur nous-mêmes, mais aussi parce qu'on se réfléchit dans les autres. Mmh. Et si les autres deviennent, sont juste en bout de ligne de quelque chose, que ce soit les réseaux sociaux ou les jeux vidéo ou des, c'est pas la même chose que d'être ensemble, que de discuter, que de.
Et là où je vous rejoins, c'est que lorsqu'on est ensemble, pour revenir justement sur cette scène des ados, il n'y a pas d'interface déjà numérique, il n'y a pas de monétisation en fait de cette parole et de cet échange. À l'inverse, effectivement, d'un échange qui a lieu sur un téléphone portable via un réseau, via une plateforme, où il y a une monétisation de cet échange, parce qu'il y a une plateforme qui va faire du profit sur cette discussion, sur cette transmission des données, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est l'un en face de l'autre. L'un en face de l'autre, comme en ce moment. Marc Duguin, même si on va accueillir une troisième personne, ça sera une voix. Elle s'appelle Suzanne et elle nous chante Génération Désenchantée, dont un clip qui vient de sortir. Vous êtes bien dans le meilleur des mondes.
Change pas, y'a toujours les mêmes au talk show du soir. Y'a la crise et la dèche, un gros trou dans la caisse, trop de CO2 dans l'air. Poutine qui fait la guerre, pandémie, tsunami, pollution, pénurie, attentat sans abri. Y'a plus belle la vie. Habiter sur terre, c'est pas toujours la joie. J'suis souvent en colère, j'me mets dans des états. À deux doigts d'exploser comme une bombe dans la soute, comme du nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth. C'est pas nos vies qui comptent, c'est l'argent que ça leur coûte. On cherche tous une place au soleil. Petit bout d'horizon, voir la vue sur la mer, dans un paysage en béton. Allez, génération désenchantée, ça va aller, allez. Le monde est à nous, qu'est-ce qu'on en fait? Ça va aller, ça va aller. C'est quoi le décor que je laisse à mon petit frère? Je voudrais lui fabriquer un monde imaginaire. Y aurait plus d'armes de guerre à part d'en jeter, y aurait plus le plastoc qu'on a jeté là. Resterait que les discours de Mandela. Je verrais plus des gamins venir mendier là. Je veux plus être humaine. Je veux partir de là. Aller voir les aliens. Si c'est mieux qu'on va. Je peux plus voir des familles dans des tanks et je suis à voir des jeunes qui font la queue devant Pôle Emploi. J'inspire plus de vengeurs chouettes qui s'étouffe sur Insta. Si tu crois injustice, allume ta caméra. Cherche tous une place au soleil, un petit bout d'horizon, voir la vue sur la mer. Dans un paysage en béton.
Suzanne et sa génération désenchantée, clin d'œil évidemment à Mylène Farmer, qui vient d'ailleurs de sortir un titre à tout jamais où il y a beaucoup question de technologie, puisque ça a été tourné avec des caméras volumétriques. Donc voilà, c'est des générations, l'une plus ancienne, très connectée, et l'autre actuelle qui est plutôt désenchantée. Mais il n'est plus le temps de comparer les générations, mais il est temps de partir du côté des nouvelles lumières des mondes.
Better, happier, comfortable. Not drinking too much. Regular exercise at the gym. 3 days a week.
Les nouvelles du meilleur des mondes. François Saltiel.
La semaine dernière, je vous parlais de la suppression d'une dizaine de postes au sein du service actualité de Facebook News en France. Eh bien, figurez-vous que Mark Zuckerberg a largement poursuivi et amplifié cette vague de licenciements puisqu'il vient d'annoncer la suppression d'11 000 postes, soit 13% de ses 87 000 employés. L'entreprise se sert de la crise sanitaire comme excuse. Le groupe aurait embauché trop massivement au moment des confinements en pensant que le commerce en ligne et la vie du sans-contact deviendraient une pratique durable. Mais la crise économique est passée par là. Cette erreur d'approche d'appréciation affichée n'explique pas tout. Le groupe fait face à une concurrence majeure avec TikTok. Il ne parvient plus à rattraper la plateforme chinoise, même s'il tente de copier les recettes de son succès pour capter les jeunes avec notamment un algorithme de recommandation très efficace. Si Facebook vacille, c'est aussi parce que ses investisseurs doutent fortement de la stratégie du métavers de Mark Zuckerberg. Le milliardaire concentre une énorme partie de ses ressources au développement de cette technologie immersive. Mais pour l'instant, en termes de rentabilité, elle reste un mirage. Mais nous pouvons compter sur l'optimisme forcené de Zuck, qui annonce avec grandiloquence que Facebook travaille pour l'histoire en inventant le futur des connexions sociales. Comprenez que ces 11 000 personnes limogées ne sont qu'un petit détail de la grande histoire, du moins celle qu'il veut bien nous raconter.
The metaverse may be virtual, but the impact will be real.
Hier, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la constitution d'un laboratoire international pour la protection de l'enfance en ligne. Un labo qui a pour vocation de réunir de multiples profils, allant des chefs d'État comme celui de l'Estonie ou de l'Argentine aux ONG, en passant par les représentants des plus grandes plateformes, Meta, Google, TikTok, pour lutter contre l'exposition croissante des jeunes à la pornographie et tenter d'endiguer les propos violents et le cyberharcèlement. Le tout nouveau président de Twitter, Elon Musk, n'était pas de la partie, mais il a été interpellé par Emmanuel Macron sur Twitter, justement, et en anglais, s'il vous plaît, « Will the bird protect our children ?» Voilà. Hein, traduction, l'oiseau protégera-t-il nos enfants? Réponse, lui, en français, d'Elon Musk, qui a répondu absolument. Quelques caractères qui l'engagent à pas grand-chose, finalement, car nous savons bien que l'un des grands problèmes de l'expansion de la violence en ligne et du cyberharcèlement, c'est le manque cruel de modération et toutes les vagues de licenciements chez les employés de la tech, comme la volonté d'encourager une liberté d'expression débridée chez Elon Musk, semble antinomique avec la protection de l'enfance en ligne qui exige une plus grande régulation. Mais qui ne tente rien n'a rien. Après tout, Emmanuel Macron a employé le terme de « laboratoire », mais on peut tout de même douter de cette formule aux postures paradoxales.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Et on termine par une préconisation transmise par la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, à l'intention des supporters français de foot qui comptent se rendre dans quelques jours au Qatar pour assister à la Coupe du Monde. L'autorité française conseille tout simplement de se servir d'un téléphone jetable. C'est un conseil donné aux supporters, ou du moins de les réinitialiser pour éviter d'être espionnés par les autorités locales, car les visiteurs de la Coupe du Monde doivent obligatoirement télécharger deux applications, celle officielle de la compétition et une autre de suivi de Covid, deux applications suspectées d'être des logiciels d'espionnage. La CNIL conseille par ailleurs de ne pas stocker non plus des fichiers qui pourraient enfreindre les lois du Qatar, notamment sur les contenus LGBT. Une absurdité de plus pour cette Coupe du Monde où il faut accepter censure et espionnage pour contempler un ballon rond sur un terrain climatisé en hiver. Oui, vous êtes bien dans le meilleur des mondes.
Welcome to the brave new world.
Une réaction peut-être, Marc Duguin, par rapport à ces trois informations?
Bah, la Coupe du Monde, déjà, pour moi, c'est un non-sens. Mais après, je veux pas influencer les auditeurs. D'abord, j'aime pas le foot, déjà.
Alors, déjà,
c'est un premier, il y a beaucoup de sports que j'aime, mais pas le foot. Et là, je pense que c'est une énormité. C'est-à-dire que faire une Coupe du Monde comme ça, dans ces conditions-là, d'abord, on a beaucoup parlé, mais on n'a pas assez parlé des conditions humaines dans lesquelles se sont faits ces travaux. Et ensuite, climatiser. On est dans un délire. Et c'est ça qui est assez effarant, en fait. C'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de limite à cette forme de bêtise. Parce que c'est quand même de la bêtise quelque part, et moi ça m'inquiète parce que ça va au-delà de notre sujet, ça va au-delà du numérique. C'est aussi la question climatique qui est une des deux questions centrales pour moi pour le futur. Il y a le climat et le numérique, la façon dont on va s'insérer dans tout ça. Et j'ai l'impression que qu'on va vers de terribles déboires à cause de ça. Ensuite. Sur les licenciements sur Facebook.
Oui, là on y revient peut-être.
Alors
parce
là,
que...
c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a eu cette période d'euphorie qui a été le sans contact de
la divine surprise que vous avez quitté tout à l'heure.
La divine surprise, et je pense que certains sont un peu grisés en se disant ça va. Et puis il y a quand même un ressac. Mais ça, c'est le propre de toutes les industries de croissance. Il y a des moments plus compliqués. Sauf que les Américains sont d'une. Moi, j'ai vécu aux États-Unis. Je les connais assez bien. Ils sont d'une violence dans les rapports sociaux qui fait que là, d'un seul coup, les gens. Je pense qu'ils savaient pas hier. Enfin, là, l'information est depuis un ou deux jours déjà, mais je pense qu'ils savaient, pas la veille qu'ils allaient partir le lendemain.
Et ça a été le même système que chez Twitter, c'est-à-dire qu'ils ont eu leur compte désactivé, ils n'ont plus eu accès. C'est ça qui est intéressant justement. Votre livre, je le rappelle, s'appelle L'homme sans contact. Et là, on est employé de la tech, on est désactivé, mais désactivé sans contact. C'est-à-dire qu'à distance, il n'y a pas un entretien les yeux dans les yeux, on va licencier quelqu'un, on le fait en appuyant sur un bouton.
Ah, mais ça, c'est terrifiant, ça.
Et pour vous parler aussi de...
Mais,
de...
pardon, je vous en prie. Je vous interromps, mais c'est vrai que dans le télétravail, il y a un peu de ça aussi. C'est-à-dire qu'avec le télétravail, bon, qui nous a beaucoup aidé pendant la crise sanitaire, mais on a créé cette possibilité de, aussi, de dire, bah, tiens, moi, je peux être à Taïwan et travailler pour une boîte française, et puis un jour, on vous déconnecte de la même façon. C'est-à-dire qu'on vous dit, bah oui, il y a... Donc, c'est aussi ce courant qui, finalement, c'est l'idée, c'est quoi cette idée sous-jacente? C'est qu'il n'y a plus de salariat. C'est-à-dire qu'on est tous, on devient tous des professions libérales et que le contrat, il s'arrête d'une minute sur l'autre. Et donc, on peut délocaliser sans fin avec le télétravail. On peut employer un ingénieur en Inde pour travailler dans une boîte française et du jour au lendemain, on peut le déconnecter. De même qu'on peut déconnecter des salariés français, c'est plus compliqué, mais...
Disons qu'il y a quelques lois, heureusement.
Heureusement, il y a quelques lois
qui peuvent permettre de protéger certains droits, mais on se rappelle évidemment aussi de Uber pendant le confinement qui avait licencié des milliers de personnes en visioconférence, même si encore une fois, le télétravail est un petit peu à l'image justement des licenciements de Mark Zuckerberg, ils y reviennent aussi un peu parce qu'on se rend compte qu'en termes de productivité, les gens sont quand même moins productifs lorsqu'ils sont complètement en télétravail. Que ça soit Elon Musk, il rappelle les gens dans leur bureau. Les entreprises de la tech commencent à rappeler les gens dans leur bureau, pas parce que ils ont bien envie que les gens se parlent à côté d'un café et qu'il y ait plus de relations humaines, mais tout simplement parce qu'on se rend compte qu'ils perdent en productivité. Donc c'est peut-être des tendances effectivement qui ont été très fortes, dont on pourrait craindre, et ça fait partie de votre livre, qu'elles s'installent durablement, mais peut-être qu'il y a un petit retour arrière, même si on est d'accord qu'une pratique a été installée, maintenant un usage a été installé et qu'on reviendra pas totalement.
Mais je pense qu'il s'y ajoute aussi quelque chose, c'est que la présence, pour le coup, le présentiel, comme on a découvert ce mot, on le connaissait un petit peu avant, mais c'est aussi une question de pouvoir. Il y a aussi, à partir du moment où les gens sont dans... je connais des boîtes où tout le monde est mis dans des espaces, vous savez, à l'américaine, là, tout le monde est... Et finalement, toute la journée, vous avez l'impression d'être surveillé, vous pouvez pas faire... C'est aussi une façon de... En mettant les gens dans des locaux comme ça, c'est une façon d'exercer sur le pouvoir. Alors c'est vrai que la contrepartie, c'est que le télétravail, c'est une forme de liberté. Mais sauf que...
Télétravail, pardon, Marc Duguin, un télétravail qui n'empêche pas d'ailleurs le contrôle et la surveillance.
Absolument.
Il informe alors ses salariés que leurs ordinateurs seront désormais équipés du programme de surveillance Upstaff. Nous choisissons au hasard une de ses employées pour voir à quel point ce logiciel est précis. Par exemple, Sarah, qui est-elle et que fait-elle en ce moment?
Sarah est photographe. Elle doit créer des contenus pour les réseaux sociaux de nos clients. Voilà, ça c'est elle aujourd'hui. On voit qu'elle a commencé à 7h40 ce matin. Là, ce sont des photos de son écran prises toutes les 10 minutes. Vous pouvez voir qu'elle est vraiment en train de travailler. Elle va sur Google chercher de jolies images. Juste ici, je peux voir qu'elle lit un article pour un client. Je peux voir les légendes de photos qu'elle rédige. Toutes les 10 minutes, je peux voir exactement ce à quoi elle est occupée.
Et un extrait justement d'un reportage qui explique que cette surveillance très forte du télétravail, évidemment là, ça mène de l'eau au moulin de votre livre, Marc Duguin, puisque là on est totalement dans la surveillance et dans le contrôle. Donc c'est un extrait de complément d'enquête. Juste pour une question peut-être un petit peu plus large par rapport à votre œuvre, donc à la fois de romancier et d'essayiste pour pointer du doigt justement des dérives comme on vient de l'entendre, c'est-à-dire des dérives du numérique. Qu'est-ce qui est le plus puissant selon vous, le faire par le prisme du roman, puisque je l'ai dit tout à l'heure, dans votre roman ils sont très documentés, ou par celui de l'essai où il faut les deux? Comment est-ce que c'est la même personne, est-ce que c'est le même Marc Duguin qui parle et qui va juste employer un canal différent, que ça soit par le roman ou par l'essai, pour faire passer ses idées?
Ben, je pense que le roman et l'essai s'adressent chacun à des parties du cerveau différentes. C'est-à-dire que dans le roman, dans la fiction, il y a une partie émotionnelle. Il y a une partie, il y a moins, je dirais, un devoir de précision, C'est pour ça d'ailleurs que j'écris tous mes livres avec Christophe Labbé, qui était un vrai journaliste d'investigation, parce que je sais qu'au moins lui il a une rigueur que moi j'ai pas forcément. Mais quand on écrit un roman, il y a évidemment il y a une beaucoup plus grande liberté, mais il y a aussi le risque qu'on prenne avec la réalité quelques libertés qui sont donc. Mais c'est très différent. Mais moi j'aime beaucoup. C'est pour ça que je fais un peu tout.
Un peu tout et un peu les deux.
Et ouais. Parfois je le regrette un peu parce que ça fait un peu trop. Mais j'aime bien tous ces vecteurs d'expression. Et moi j'avais beaucoup apprécié écrire Transparence par
en
exemple.
En 2019, oui.
Bon, c'était évidemment une extrapolation et une anticipation. Je dis pas qu'elle était délirante, mais c'était vraiment de l'extrapolation. Mais il y avait aucune certitude qu'on en arrive là. Mais ça permettait de poser d'autres problèmes.
Vous parliez déjà de la crise climatique, évidemment. Vous parliez du transhumanisme, de la question de l'immortalité, d'une certaine forme d'eugénisme. Enfin, il y avait effectivement plein de notions, plein de données. Vous le dites d'ailleurs, il y a une belle formule. Hein, c'est l'affection qui nous permet d'imaginer le réel parfois.
Oui, absolument. Et alors c'est très intéressant parce qu'effectivement il y a quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est que d'un côté vous avez toute la société numérique, vous avez l'impression, parce que évidemment tout le monde ne travaille pas là-dessus, mais il y a cette idée d'immortalité. Dieu c'est l'homme. C'est d'ailleurs chez ils sont tous un peu cinglés, hein. Elon Musk quand vous voyez.
Ah bah ils ont toujours des postures messianiques.
Ils ont des trucs quand même qui sont à la limite de la psychiatrie, quoi. Et Elon Musk, il se voit déjà sur Mars. Et donc d'un côté, vous avez toute une industrie dont l'idée c'est l'éternité, et puis de l'autre côté, on a une crise climatique qui nous indique que éventuellement ça pourrait être la fin de l'espèce. Je trouve que la coexistence des deux est très intéressante.
Est très intéressante. Mais pour ça, Elon Musk a une solution. Il envisage effectivement de coloniser Mars en partant du principe qu'à un moment donné, la Terre ne sera plus respirable. C'est son fameux plan B. Mais Elon Musk, puisque vous l'évoquiez, a plein d'autres projets, dont un autre qui s'appelle Neuralink. Et c'est Juliette qui va nous en parler. Bonsoir, Juliette.
Bonsoir.
Alors, je le disais, vous êtes intéressée à Neuralink, que vous connaissez sans doute, Marc Duguin, cette entreprise qui cherche depuis longtemps à concevoir une interface cerveau-machine à l'aide d'implants neuronaux. Non, ce n'est pas de la science-fiction.
Et oui, depuis 2016, la recherche avance dans les bureaux de Neuralink. L'implant cérébral développé par la firme fait aujourd'hui la taille d'une petite pièce de monnaie. Et Elon Musk a prouvé qu'une fois inséré dans le crâne, sa technologie était en mesure de capter les signaux électriques émis par le cerveau et de les traduire en commandes. C'est ainsi que l'on a pu voir en 2021 un singe jouer au célèbre jeu Pong face à un écran par la seule force de sa pensée, d'une démonstration publique organisée par Neuralink. Mais derrière cette démonstration spectaculaire se cachait une réalité bien plus sinistre. Une association accuse ainsi Neuralink de la mort d'au moins 15 primates dans ses laboratoires à des suites des manipulations de leur boîte crânienne et des mauvaises conditions de leur détention. Et alors qu'Elon Musk annonçait les premiers tests cliniques de sa technologie sur les humains en 2020, eh bien la Food and Drug Administration n'a toujours pas validé l'autorisation qui permettrait à Neuralink de mener ses essais sur les hommes. Vous penserez peut-être que les déboires de Neuralink signent la fin de l'ambition de la commercialisation de ces interfaces cerveau-machine. Eh bien, pas du tout, puisqu'il s'avère qu'une autre entreprise concurrente, Synchron, a reçu, elle, le précieux agrément de la Food and Drug Administration et teste en ce moment même des implants neuronaux sur plusieurs personnes aux États-Unis et en Australie.
Alors, comment expliquer ce coup d'avance de Synchron ?
Eh bien, cela tient à la technologie développée par la start-up New York Synchron, réputée moins invasive que celle de Neuralink. Les capteurs sont insérés dans le cerveau, mais via des vaisseaux sanguins et l'opération dure en tout seulement quelques heures, car il ne nécessite pas l'ouverture de la boîte crânienne. Quelques personnes atteintes de paralysie ont ainsi été sélectionnées par la firme pour tester cette technologie et ont vu leur vie transformée. Privés de l'usage de leurs membres supérieurs pour certains depuis des années, ces individus peuvent désormais naviguer sur Internet grâce à leur seule activité visuelle et cérébrale. Et c'est sans surprise que la communication de l'entreprise Synchron se focalise pour le moment sur l'autonomie retrouvée de ces personnes.
Donc Graham peut maintenant surfer sur Internet, écrire des documents Word, consulter ses emails, faire tout ce qu'une personne peut faire en temps normal sur un ordinateur en n'utilisant rien que son cerveau et ses yeux. La meilleure application de cet outil, c'est lorsqu'une personne qui a eu un accident grave, qui a vu la meilleure partie de sa vie s'éloigner d'elle en termes d'indépendance, reprend le contrôle d'une façon qui lui permet d'être la meilleure version d'elle-même.
Dans leur communication, Synchron passe ainsi sciemment sous silence leur partenariat exclusif avec les interfaces Apple et n'évoque évidemment pas la problématique de la récolte d'une donnée aussi sensible que celle de l'activité cérébrale. Pourtant, il est évident qu'à terme, l'objectif de ces firmes Neuralink comme Synchron est de commercialiser ces implants auprès de tous les particuliers, ce qui soulèvera des questions éthiques majeures. Alors que Neuralink prépare une nouvelle démonstration de son implant le 30 novembre prochain, il est peut-être temps de reconnaître que nous sommes entrés dans une nouvelle ère pour les interfaces cerveau-machine. Il n'est désormais plus question de savoir si cela se produira, mais quand cela se produira et qui remportera la plus grande part de marché.
Merci beaucoup Juliette pour cette chronique d'anticipation, hein, puisque maintenant, si je reprends les derniers mots, la question c'est savoir quand est-ce que ça va arriver, qu'on va finalement se transformer comme une forme de cyborg ou d'homme augmenté, ce qui serait une manière pour nous, Marc Duguin, j'imagine, de renoncer totalement à notre humanité.
Bah, de toute façon, si vous écoutez Elon Musk et que vous voulez vraiment aller jusque sur Mars, on ne pourra pas y aller dans notre forme actuelle, parce qu'avec les rayonnements cosmiques, on sera mort avant d'arriver sur Mars. Donc c'est évident qu'il y a, je peux pas faire du conspirationnisme, loin de là, parce que c'est pas du tout ma tasse de thé, mais il est évident que il y a de façon sous-jacente l'idée d'un homme augmenté déjà. Alors, il y a plein d'applications qui sont positives. Comme les exosquelettes pour les gens paralysés.
Puis même les implants, parce qu'on voit que, effectivement, la vocation première dont nous parlait Juliette, c'est de résoudre un handicap, et c'est le panier un handicap. C'est toujours dans une volonté de rendre le monde meilleur. Puis après, on voit qu'il y a un usage qui est offert à la population, à toute la population, et ce n'est plus l'objectif louable initial.
Ben, vous avez raison, parce que moi, je trouve que c'est ça, l'essence de la technologie. C'est qu'au départ, rappelez-vous le nucléaire, c'est quand même assez génial, le nucléaire au départ. Puis là aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'on peut laminer la planète en quelques secondes. Donc je pense que c'est inhérent à chaque technologie. Il y a forcément, c'est très rare que l'être humain développe des technologies qui sont a priori mauvaises. C'est très rare. Donc on va toujours vers une technologie avec plein d'avantages. Et puis parce qu'on veut pas les voir, parce que politiquement, on n'a pas forcément envie de les voir non plus. Ben, on attend que les choses avancent. Et puis là, on se dit, tiens, on va réglementer. C'est un petit peu ce qui s'est passé en matière fiscale. Si vous prenez le cas du numérique, on a avancé, puis on s'est rendu compte que le numérique remplaçait beaucoup d'industries, enfin beaucoup de, mais qui payaient pas d'impôts. Donc il y avait quand même un problème, c'est-à-dire que alors on connaît évidemment la mentalité des géants du numérique ultra libéraux, disant de toute façon les États ça sert à rien, pourquoi payer des impôts. Mais donc voilà, ce qui est très intéressant, c'est que toutes ces technologies, il y a toujours quelque chose de très intéressant et de même de fascinant au départ, mais après là le problème, si vous voulez, c'est que je dirais le temps de la compréhension collectif et le temps politique n'a jamais été aussi dépassé par une technologie qui va mille fois plus vite.
Ah oui, on est toujours en retard, effectivement.
Donc là, on est battu, si vous voulez. Le temps qu'un politique s'intéresse à une question, c'est déjà fini.
Le temps qu'on essaie de résoudre les problèmes sur Terre, on sera déjà sur Mars. Mais pour justement essayer de terminer sur une note positive, au moins essayer d'y concourir. Comment ? Allez-y.
Je dis ça va être dur.
Ça va être dur, mais on va essayer d'y arriver. Je sais que vous êtes capable de tout, Marc Duguin, mais où sont les motifs d'espoir ? Où est la lumière ?
Et la lumière, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ce qui m'inquiète le plus, finalement, dans tout ça, c'est ce que je disais un petit peu au début de l'émission, c'est-à-dire que toutes ces technologies nous emmènent vers un homme de plus en plus marchand et de moins en moins citoyen. C'est-à-dire que l'esprit critique, et quand je parle d'esprit critique, c'est-à-dire la capacité de critiquer sur la base d'informations, de recherches, de travaux effectifs, cet esprit critique, moi j'ai le sentiment que autant les vitupérations, je dirais, s'amplifient, mais l'esprit critique vraiment, c'est-à-dire la discussion en connaissance de cause, tout ça, c'est en train de se rétrécir. Et c'est-à-dire, et moi je le vois chez les enfants.
Ça me paraît pas être une solution, hein.
Non, ça c'est pas une solution. Donc ce que j'espère, c'est un sursaut. Moi j'en ai vu. Auprès de gens qui étaient... Parce que si vous voulez, tout le problème du numérique, c'est qu'il est basé sur une partie de notre cerveau qui est archaïque, qui est le
cerveau reptilien.
Le cerveau reptilien, et là où se logent les addictions. En fait, et donc la partie, je dirais, esprit critique, qui est plus, je crois, à l'avant du cerveau, qui est plus dans notre cortex cérébral, est moins sollicitée. Donc il faut rebasculer, c'est tout simple. Il faut rebasculer vers ce qu'on est, c'est-à-dire... des individus capables de créer de la civilisation non pas uniquement technologique mais humaine dans sa globalité, dans des rapports humains, dans une vraie considération de l'altérité. C'est ça. Et moi j'ai vu des exemples autour de moi de gens qui étaient complètement submergés par le numérique et qui à un moment donné ont dit ça suffit, on va continuer avec le numérique évidemment parce que
on va pas se déconnecter,
et là je crois par exemple les Chinois qui sont quand même pas des démocrates de première de premier ordre
a priori,
ou bien alors je serais mal informé, c'est les premiers à avoir réduit le temps d'écran pour les enfants
de manière assez drastique,
drastique comme avec... toujours, mais ça c'est la Chine. Mais nous on n'a pas commencé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a quand même des ophtalmologistes, des congrès d'ophtalmologie où on dit les enfants qu'on est en train de produire sont des enfants qui seront dans le meilleur des cas myopes et dans le pire des cas aveugles. Et on n'a pas commencé à réglementer en disant bon bah les enfants très bien, une heure par jour très bien mais pas plus.
On trouvera toujours de toute façon un Elon Musk pour nous inventer des lentilles de contact qui remplaceront justement ces yeux qui ont été abîmés. Peut-être une solution, elle pourrait venir d'un roman, elle pourrait venir d'une utopie ambiguë, elle pourrait venir d'une autrice, elle pourrait venir des années 70 avec cette autrice Ursula Le Guin. On va aller écouter justement une lecture de son ouvrage Les Dépossédés, c'est une amatrice évidemment de Philippe K. Dick comme vous, et peut-être que grâce à elle, on va trouver une petite solution.
Si c'est vers le futur que vous vous tournez, alors je vous dis qu'il faut aller vers lui les mains vides. Vous devez y aller seul et nu, comme l'enfant qui vient au monde, qui entre dans son propre futur, sans aucun passé, sans rien posséder, dont la vie dépend entièrement des autres gens. Vous ne pouvez pas prendre ce que vous n'avez pas donné, et c'est vous-même que vous devez donner. Vous ne pouvez pas acheter la révolution. Vous ne pouvez pas faire la révolution. Vous pouvez seulement être la révolution. Elle est dans votre esprit. Ou bien elle n'est nulle part.
Voilà, être la révolution, elle est dans son esprit. Et pour l'instant, on ne peut pas encore totalement pénétrer notre esprit. Ça reste encore un espace jusque-là qui reste encore sanctuarisé, presque.
Je pense qu'alors là, technologiquement, on sera capable dans quelques années de lire dans les pensées, d'une façon ou d'une autre.
Mais être la révolution, ça peut être quand même une solution. Donc, je sais pas ce que vous pensez.
Ça peut être une solution, mais j'ai l'impression que c'est pas très bien parti pour l'instant.
Bon, j'arriverai pas, je crois. J'arriverai pas avec Marc Duguin à essayer d'avoir une note positive. Peut-être parler de vos prochains projets qui, eux, sont forcément enthousiastes et positifs. Marc Duguin, ça va être quoi? Le roman, l'essai, le cinéma? Alors déjà, il y a un ouvrage qui apparaîtra en avril prochain.
Oui, qui est un ouvrage un peu lié à la politique et de légère anticipation. Voilà,
commence à vous plaire les romans d'anticipation?
Oui, ça me plaît probablement plus que les romans sur le passé. Puis je travaille sur un nouveau film qui se passe à l'époque de Louis XIV. Donc je travaille beaucoup sur l'époque de Louis XIV et justement je lis des historiens qui déconstruisent l'histoire officielle de cette époque-là, sachant que j'essaye d'explorer cette période de la façon la plus objective possible.
C'est parce que vous en avez assez de regarder le futur de manière pessimiste que, comme on le disait au début de cet entretien, vous vous tournez maintenant vers le passé avec Louis XIV.
Oui, c'est très très amusant parce que c'est vrai que pour le roman, je suis souvent tenté par l'anticipation, alors que dans le cinéma, je suis toujours tenté par des périodes plus anciennes, plus obscures, plus c'est très particulier, mais J'aurais été ravi de faire une série d'anticipation comme Black Mirror, par exemple, mais c'était déjà fait.
C'était déjà fait, mais voilà. On peut en faire une autre. Pourquoi pas, tiens, une série d'anticipation sur une utopie positive, plutôt que d'aller vers les dystopies. Je suis sûr que ça sera un exercice compliqué d'arriver à trouver un peu d'espoir, mais on pourrait toujours essayer. Merci beaucoup, Marc Duguin, d'avoir
Merci
été avec
beaucoup.
Nous. Et je rappelle donc L'Homme sans contact aux éditions de l'Observatoire. C'est sorti dans toutes les librairies en physique et aussi, on peut le lire, évidemment, en numérique. Je remercie à la préparation de cette émission Juliette Devaux, qui a également été chroniqueuse ce soir, accompagnée par Héloïse Robert comme stagiaire. À la réalisation, c'était une première pour Daphné Leblond et ça s'est très bien passé. Merci Daphné, à la technique, c'était Grégory Vallon. Voilà, Le Meilleur des Mondes, c'est terminé. On se retrouve évidemment la semaine prochaine.